épisode numéro 8 de Végétal Valley, le podcast, avec aujourd'hui Bernard Rentier. Merci Bernard Rentier de m'avoir rejoint.
Avec plaisir, bonjour.
Alors, quel est ton parcours, Bernard ?
Alors, je suis biologiste de formation. J'ai fait toute ma carrière à l'université de Liège, avec une interruption de 5 ans aux États-Unis pour un postdoc. À la fin des années 70, début 80. Et puis je suis revenu, j'ai monté, mis sur pied un laboratoire de virologie et d'immunologie virale. On s'occupait de virus, de vaccins. Et puis en 97, je suis devenu vice-recteur de l'université et en 2005, recteur jusqu'en 2014. Donc. Je viens tout fraîchement de sortir de charge.
Ah, parfait. Félicitations. Hein, pour.
Merci beaucoup.
Ouais, pour la pension. je suppose que tu n'en prendras pas trop non plus de temps de pensionné.
D'après ce que je constate aujourd'hui, c'est déjà bien chargé. Donc, oui. Donc voilà, je n'ai que l'embarras du choix sur des activités à prolonger ou plus exactement à lancer, parce que je suis plus intéressé à lancer les activités qu'à prolonger la course. Je pense que j'ai assez couru dans ce sens-là. Donc maintenant, il faut utiliser mes connexions, mes réseaux pour essayer de développer du neuf.
D'accord. Donc tu as été quand même donc pendant longtemps, et bon, tu le restes, mais hors ULG, un acteur. Du redéploiement liégeois, hein. Donc tu as beaucoup travaillé ici avec le Grès, parce que nous trouvons pour le moment au Grès, et donc Végétal Valley, qui fait partie du Hub Créatif, a deux missions claires. La première mission, c'est de raccourcir le chemin entre le producteur et le client final, hein, qui s'appelle la désintermédiation en supply chain. Mm-hmm. Et alors, la deuxième mission, c'est une mission de communication à partir des acteurs économiques, culturels, académiques et politiques de la province de Liège et de ceux qui travaillent en province de Liège, parce qu'on sort quand même un peu de chez nous. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est le redéploiement économique et voir, selon nos invités, donc comme toi, quels sont les soucis, quels sont les problèmes, les enjeux liégeois aujourd'hui.
Donc ma position est un petit peu intermédiaire, puisque je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est en train de développer une nouvelle entreprise. Donc mon penchant pour l'entrepreneuriat est plus vers des initiatives. Et ces initiatives sont multiples. Je pense que ce qu'on a comme problème à Liège aujourd'hui, c'est que ça fourmille d'idées. Il y a énormément d'idées et d'initiatives différentes. Il manque une certaine forme de coordination. Et quand on dit coordination, ça veut aussi dire être capable de donner des priorités, d'établir des priorités et de s'y tenir. Mmh. C'est peut-être le plus difficile. Les listes de priorités, on en voit tout le temps, mais elles changent. Et donc je pense qu'il manque une certaine forme, je ne suis certainement pas pour une centralisation des initiatives, mais une certaine forme de vision. Mmh. Qui permettrait de donner et de maintenir des ordres de priorité. Parce que, bien entendu, on ne peut pas tout faire. Mais je suis frappé par le fourmillement d'idées. Mmh. Alors, moi, je viens de l'université où j'ai pu, pendant des années, constater l'extraordinaire fourmillement d'idées avec des choses qui s'accomplissent et des choses qui ne s'accomplissent jamais, bien entendu. Mmh. Mais l'idée qui est de passer d'un concept à une réalisation pratique, c'est quelque chose que nous avons souvent mis en œuvre. Mmh. Alors moi-même, j'avais, avant de m'occuper de la politique universitaire, j'avais moi-même créé j'ai créé deux entreprises spin-off qui ont bien évolué. L'une a été rachetée, l'autre fonctionne toujours. Donc, c'était des initiatives qui permettaient de sortir de l'université elle-même des activités qui avaient finalement un but commercial et qui ne rentrait pas dans les définitions de l'université, mais qui demandait l'expertise de l'université.
C'est ça.
Pour être mise sur pied et pour être accompagnée. Et donc, cette expérience-là m'a énormément apporté à moi en termes de compréhension de la difficulté de passer d'un concept à sa réalisation, de ce que c'est qu'une entreprise spin-off d'une université, ce que c'est qu'une start-up, quels sont les problèmes qu'on rencontre pour trouver des moyens, etc. Et donc là, j'ai pu constater vraiment, et puis par la suite, en tant que vice-recteur et puis que recteur, je me suis beaucoup occupé de la valorisation universitaire, je me suis rendu compte de l'immense problème et difficulté que nous avons à faire le raccord entre le démarrage d'une idée sous forme d'entreprise et puis son essor et son envol à un certain niveau. Il y a toujours un passage intermédiaire, une sorte de plan incliné après la gare, là où ça patine un peu, parce qu'on ne trouve pas le moteur nécessaire. Après, quand on est sur le plateau, ça roule. Et donc aujourd'hui, il est plus facile de trouver 50 000 euros pour démarrer, ou 5 millions d'euros pour continuer à voler, mais ce qui manque, c'est le million intermédiaire. Quoi.
Donc, c'est ça, oui.
Ou les 500 000.
C'est le creux de croissance. Hein.
Donc ça, c'est généralement le fond de second tour, et il manque cruellement. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille énormément à trouver des moyens. Quand on se compare à d'autres régions ou à d'autres pays, on constate que pour ces initiatives-là, nous sommes très très bons, nous avons vraiment un foisonnement de possibilités, mais elles ont tendance à avorter en raison d'un manque de tremplin. Il y a quelque chose qui manque.
Ok, un accompagnement à la croissance. Alors,
oui. Alors, on a établi beaucoup en Wallonie de manière générale, d'ailleurs, on a établi pas mal de moyens qui sont des moyens publics, de soutien, mais ça ne comble pas cette difficulté-là.
Ouais.
Et il manque, je pense, d'une véritable attractivité vis-à-vis des investisseurs pour cette phase intermédiaire.
Donc il manque des fonds d'investissement de seconde taille.
Alors ça, c'est très complexe. Et moi, mon point de vue va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je me dis que ça, c'est lié aussi à une attractivité de la ville elle-même, enfin de la ville et de son environnement. Hein.
Ouais. Et de sa tradition.
Exactement. Donc, quel va être l'investisseur qui va aller investir sur une ville qui, par ailleurs, ne resplendit pas de tous ses feux. Donc, c'est pour ça que mon action, je la partage à la fois dans le désir d'aider au développement économique par des entreprises nouvelles, par des initiatives nouvelles. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, énormément de choses qui sont dans le pipeline. Mais nous devons aussi soigner notre look. Et donc, dans notre look, j'inclus, bien entendu, tout ce qui est culturel. Et c'est la raison pour laquelle, parallèlement au développement économique strict d'entreprise, j'inclus dans entreprise tout ce qui est initiative culturelle. Et là, je pense qu'on a aussi un potentiel formidable. On a beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on a des grandes structures qu'on n'a pas partout en Wallonie. Hein. On a l'Opéra Royal de Wallonie, on a un orchestre philharmonique, on a un grand théâtre. Donc, et une activité off aussi importante. Mais néanmoins, je trouve qu'il manque d'un renouvellement culturel et d'une avant-garde. C'est ce qui caractérise les villes qui acquièrent alors une réputation incontournable. Et il n'y a donc pas que le potentiel de faire de l'argent qui attire les investisseurs, il y a aussi l'endroit où ils vont investir.
Le bien-être, oui.
Et donc, ça s'étend à l'architecture, à l'urbanisme et à la circulation urbaine, à plein de choses. Hein. Et donc, moi, je me refuse à voir ces aspects-là comme des aspects complémentaires, comme la guirlande sur le sapin. Hein. Je pense que c'est vraiment indispensable. S'il n'y a pas de guirlande sur le sapin, personne ne vient voir le sapin.
C'est ça. Ok, bah merci. Les solutions les plus rapides à mettre en place, selon toi, ce...
Alors, ça paraît simple parce qu'on se dit il faut un système de coordination. Donc, et il y a eu beaucoup d'initiatives, et je fais partie de certaines d'entre elles, d'ailleurs. Donc, c'est certain que des initiatives comme celle du GRE, par exemple, le groupement de redéveloppement économique, se penche sur ces problèmes et que le volet culturel n'en est pas absent. Donc, je pense qu'on est dans le bon, là. Le problème, c'est de voir comment... l'urgence, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui transformer en initiative concrète des recommandations. Alors, il ne suffit pas d'avoir un groupe qui se réunit et fait des recommandations. Il faut que ça puisse devenir concret. Alors là, il y a une articulation qui manque. Sinon, en termes de rencontres entre des gens, même je dirais rencontres improbables, entre des gens qui ont des activités extrêmement variées, ça fonctionne très bien.
C'est ça.
Et on a réussi à créer à Liège un ensemble vaste, d'ailleurs, de gens qui se connaissent maintenant et qui savent à peu près ce que les uns et les autres font. Or, moi, je crois très, très fort au croisement des disciplines, à l'interdisciplinarité. C'est un grand mot qu'on lâche comme ça, mais qui, dans le fond, représente quelque chose de bien réel. Et qui relève de la constatation que tout ce qui est réellement innovant et vraiment qui fait faire un énorme pas en avant provient toujours du croisement et du frottement de silex. Et si on n'offre pas à ces silex l'occasion de se rencontrer, jamais l'étincelle, évidemment.
Tout à fait. Merci. Et donc, maintenant, tu as un paquet de projets?
Oui, j'ai pas mal de projets. Donc, j'ai des projets dans le domaine culturel en acceptant de m'occuper de la Société libre d'émulation qui s'occupe justement de promotion des arts et des sciences. Je crois qu'il y a pas mal de missions que nous remplissons de ce côté-là, du côté de la promotion des sciences chez les jeunes, mais aussi du côté de la promotion des arts. Et j'aimerais qu'on développe plus à Liège des formes d'art plutôt alternatifs, progressifs, progressistes. Il y a énormément de choses qu'il y a moyen de faire, et donc il faut aussi là faire des choix. Mais il y a un potentiel formidable, et il y a en tout cas une volonté importante de la part de jeunes. Nous venons, par exemple, d'encadrer complètement la création d'un nouvel orchestre qui est un orchestre de chambre ou dit de chambre, enfin quand même 15 musiciens, c'est un gros orchestre de chambre.
C'est une grande chambre.
Et c'est une grande chambre et qui est d'excellente qualité, qui peut encore faire aussi des progrès, bien entendu, dans sa coordination et dans son fonctionnement, mais qui a donné un concert la semaine dernière qui était tout à fait remarquable et qui a aussi une ouverture d'esprit qui ne les range pas dans une catégorie. Donc, ils vont du classique dans leur répertoire aujourd'hui. Il y a Piazzolla, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on va du classique au tango.
C'est ça.
Et c'est pour moi vraiment une ouverture. C'est une vraie ouverture.
Ouais.
Et c'est une initiative supplémentaire. Et des gens diront sans doute, enfin, on a déjà un opéra, un orchestre, pourquoi encore c'est sûr, et l'université elle-même a un orchestre de dimension moyenne, mais de bonne qualité, un chœur, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, c'est venir en ajouter encore un. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est ça qui fait la nature même d'une métropole, d'une ville qui se veut métropole. C'est aussi d'avoir une foison d'activités qui ne sont pas concurrentes, qui sont complémentaires quelque part.
C'est ça.
Et moi, j'ai toujours trouvé que là où il y a beaucoup d'activités culturelles, ce n'est pas une concurrence entre ces activités, mais c'est une réelle émulation.
C'est ça.
Et donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
Et alors, tu as été aussi longtemps, je crois que tu es toujours un grand évangéliste de l'open data.
Oui, de l'open access en
L'open
premier.
access.
Un open access, c'est-à-dire l'accès libre, sans paiement, sans barrière, ni technique, ni financière, aux résultats de la recherche qui est financée par des deniers publics.
C'est ça.
C'est un grand principe et c'est un principe qui est empêché par un certain appât du gain de la part d'éditeurs et en particulier de très grandes maisons d'édition. J'ai eu aucun problème
Oui,
avec
pas les petites, hein.
les petits éditeurs, j'adore,
Merci.
mais les petits éditeurs, c'est excellent et ça fait partie de l'entrepreneuriat et du désir de faire des choses et de faire des choses bien et de faire une forme d'artisanat. Et dans mon langage, artisanat, c'est un compliment, hein.
C'est
C'est pas
ça, bien
du
sûr.
tout une critique.
Mais chez Vegetal Valley aussi,
Voilà.
ouais.
Et donc ça, j'encourage et je suis pour, mais je suis contre les énormes multinationales où ce qui compte, c'est de faire du fric
Ouais,
pour les
sur la propriété
actionnaires
intellectuelle,
et de le faire sur la propriété intellectuelle
ouais.
avec tous les chercheurs qui y vont tête la première, qui signent l'abandon de leurs
Et qui
droits,
paye.
etc. Et qui paye. Aujourd'hui, c'est devenu catastrophique puisqu'ils payent pour publier, puis ils payent pour lire. Et voilà. Maintenant, les chercheurs ne sont pas stupides. Ils sont simplement pas tout à fait au courant des détails parce que si ils sont conscients de devoir payer pour publier, ils sont pas vraiment conscients qu'ils payent pour lire puisque c'est leur université qui paye
C'est
pour eux.
ça,
Mais en attendant, le monde de la recherche paye pour produire, paye pour
Se
consommer
relire.
et aujourd'hui avec les technologies modernes il fait tout le boulot intermédiaire aussi hein.
C'est ça.
Donc à partir du moment où on est entré dans une phase où la science se communique par l'Internet c'est clair qu'il n'y a plus ou beaucoup moins besoin d'imprimer des revues et d'aller les distribuer dans le monde entier. Tout ça fonctionne maintenant par électronique et avec des coûts qui sont infiniment moindres.
C'est clair.
Mais ce qu'on constate, c'est que le coût de l'opération gérée par ces grands éditeurs augmente. Il a augmenté
Tout
de plus de 400% en 10 ans.
à fait.
Donc il n'y a pas de domaine, à part le trafic de la drogue, il n'y a pas de domaine plus payant que celui-là. Hein.
Ah oui, c'est
Et
vrai,
donc c'est tout à fait considérable. Et on parle de milliards. Hein.
oui.
Donc
Ah, ouais.
les bénéfices annoncés par les grandes firmes
Comme Nature,
pardon,
Elsevier, ça.
Elsevier, hein, c'est évidemment le plus gros, mais Wiley, Springer, etc., sont d'ailleurs très fiers d'afficher leurs résultats. Nous, on les prend en pleine figure parce que c'est avec notre pognon, comme
Oui,
disait
c'est clair.
Coluche. Hein. Mais par contre, pour les actionnaires, c'est une excellente chose. Voilà, moi je me suis lancé vraiment dans une croisade contre ça, parce que je pense que c'est contre-productif pour la science et que ça veut dire que une bonne partie de l'argent de la recherche part dans la poche de gens qui n'ont rien à voir avec la recherche et qui ne sont plus aujourd'hui nécessaires. Et je suis, moi, un grand défenseur de l'idée que les progrès technologiques entraînent la mise à l'écart et même la disparition de certains métiers. L'automobile a tué les fabricants de charrettes à chevaux. Donc voilà, à chaque époque, l'invention de l'imprimerie a fait en sorte que les scribes n'ont plus de business model.
C'est
Hein.
ça.
Bon, voilà, et donc.
Ils en ont récupéré un maintenant avec Internet.
Mais voilà, donc, mais ça se récupère. Donc ça pousse
Ouais.
les gens qui deviennent obsolètes à changer de
Se
modèle.
renouveler, ouais.
Donc ça, c'est très intéressant. Pour ça, il faut qu'ils le fassent et il faut que nous nous défendions pour qu'ils ne le fassent pas sur notre dos. Donc voilà, donc je préside une association internationale en faveur de l'open access et je continue à travailler dans cette organisation-là, ce qui implique que je suis souvent à l'étranger, bien entendu.
C'est ça.
Mais ceci dit, c'est extrêmement intéressant parce qu'à la faveur de ces voyages, on va dans les universités étrangères et on voit aussi les relations entre les universités et les entreprises. Et je peux vous dire qu'il y a des modèles à suivre.
C'est ça, c'est bien. Eh bien, de quelles aides aurais-tu besoin pour ce genre de projet-là?
Je pense que pour donc les deux catégories d'initiatives, bah, du côté du culturel, on connaît la pénurie de moyens, hein,
Ouais,
et
ça
ça risque pas
s'annonce
de
mal,
s'arranger, ça risque
hein.
pas de s'arranger. Là, justement, au moment où il faut mettre ses priorités, ben, voilà, les décideurs mettent leurs priorités où ils le jugent bon, et c'est généralement pas dans la culture. C'est généralement pas non plus dans l'enseignement et la formation, ce qui
Non.
est encore plus surprenant, parce que, par contre, dans les pays émergents, c'est là qu'on met les moyens,
Mmh.
hein. Et donc, quand on voit l'essor des universités en Asie du Sud-Est maintenant, c'est pas un hasard, et les gouvernements ne sont pas loin derrière, hein.
Mmh.
Donc ça, c'est sûr qu'il y a, à mon avis, là, des options à prendre. Plus difficile à convaincre pour le volet culturel, bien que nous ayons quelques défenseurs solides, bien entendu. Mais bon, sur l'autre volet, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de faire évoluer les mentalités. On a besoin que les chercheurs arrêtent d'aller se faire tondre comme des moutons de Panurge, en disant merci. Et on a besoin de diffuser le plus possible une information sur ce qui est le bon sens. Parce que finalement, les chercheurs sont déjà intelligents, sont évidemment capables de comprendre, mais il faut qu'on leur explique bien.
C'est ça,
Et donc, pour le moment, je me consacre essentiellement à essayer de faire comprendre ça. Alors, compris à l'Université de Liège, absolument. Ça fait même aujourd'hui la réputation de l'Université de Liège en international, avec ce qu'on appelle le Liège Model, hein, qui est le modèle de publication, la liégeoise, avec dépôt, de toutes les publications au sein de l'université. C'est aussi quelque chose qui saute aux yeux et qui est du pur bon sens. C'est qu'un recteur d'université doit savoir ce que son université produit.
C'est clair,
Avant moi, on ne savait pas, hein. Donc,
hein.
c'est vraiment nouveau, ça. Maintenant, on sait exactement ce qu'on produit. Et alors, ça relève aussi là de l'attractivité de l'université. À partir du moment où l'université commence à être connue, et on sait tous que nous avons péché par discrétion et par le fait que nous ne sommes pas tellement connus, et donc dans les rankings, c'est-à-dire les classements des universités, nous souffrons toujours du fait que quand le ranking repose sur une notoriété, mais nous sommes un peu en arrière. Donc il faut se faire connaître, et par tous les moyens, positifs bien entendu. Et donc là, il y a encore un effort à faire, et nous avons un handicap de départ qui est que nous ne sommes pas, nous ne bénéficions pas du renom de notre ville. Alors, parfois, le renom de la ville peut venir de choses extrêmement, extrêmement ponctuelles et extrêmement simples. Maastricht est connu dans le monde entier à cause du traité. Et donc l'université a toujours bénéficié de cette notoriété-là. Alors que souvent,
Le traité,
le traité de Maastricht est plutôt critiqué,
oui. Oui,
hein,
c'est plutôt un terme péjoratif en
plutôt
France.
péjoratif. Mais néanmoins, donc on a des universités qui bénéficient de leur localisation.
C'est ça.
Toujours mieux d'être dans une ville capitale, parce que ça, c'est plus connu. Ou alors, un lieu très prestigieux pour toutes sortes de raisons.
Oui, un lieu traditionnel, parce que bon,
Voilà.
dans les capitales, en général, dans les grands pays académiques, finalement, les universités sont plutôt dans des berceaux, genre Boston.
Oui, exact, exact. Peu connues
Ou
sont les
Oxford.
universités de Washington, par contre, oui, bien
Ah
sûr.
oui, je ne savais
Même
même
New
pas qu'il y
York.
avait une université à.
Oui,
Je suppose qu'il y en a une.
il y a plusieurs universités à Washington, et notamment Georgetown University, qui est une très
Ah
bonne
oui,
université.
c'est
Mais sinon, voilà, beaucoup d'universités françaises sont parfois mieux connues, à part la Sorbonne, que les Paris 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ah,
où d'ailleurs personne ne s'y retrouve, hein.
clair.
Mais si c'est Madrid, c'est quand même plus facile. Rome, bon, là, mais Milan aussi. Hein. Pourquoi Milan? Ben parce que Milan est quand même un petit peu la capitale économique de l'Italie et que à ce titre-là, elle a un avantage sur lequel elle joue. Mmh. Et elle joue parce qu'elle est connue par des expositions. Donc on a beaucoup ri parce que Liège voulait faire Liège 2017, mais c'était une vraie bonne idée. Ce sont les éléments qui ont d'ailleurs fait la force de Liège il y a 100 ans. Donc aujourd'hui, on a un déficit de ce côté-là et nous essayons de le remplir en ayant un certain nombre d'activités. Nous allons, dans les 3 années qui viennent, accueillir plein de choses. Mm-hmm. Ce sont des grands rassemblements mondiaux sur des thèmes particuliers. Donc ça va renforcer la notoriété de la ville. Mais donc, voilà, je crois que la notoriété a un coût, mais c'est un investissement. Et pour moi, c'est un bon investissement. Il ne faut pas négliger le culturel par rapport à ça.
Tout à fait.
Il ne faut certainement pas que l'environnement de l'université la néglige, parce que l'université est, dans la ville, un atout majeur.
D'accord.
Et ça, partout dans le monde, c'est absolument connu. Oh. Les villes sans université ont un énorme handicap.
Alors, à refaire, c'est ma question préférée, c'est la dernière. À refaire, si tu sortais de l'école maintenant et que tu trouvais, tu continueras à chercher le vaccin contre Ebola ou est-ce que tu ferais autre chose ou tu recommencerais en académique?
Non, à refaire, je referais. Refais. Je suis passé par plusieurs stades. J'ai abandonné des choses que je faisais pour faire autre chose, mais toujours dans le domaine académique ou aux environs. Mais bon, c'est là que je me sens le mieux et c'est là que je me sens parfaitement en adéquation avec mon milieu. Je recommencerai. Alors, il y a 2 options quand on doit recommencer. Une, c'est on recommence en sachant ce qu'on a fait la première fois ou on recommence en ayant tout oublié.
Oui, je l'ai fait rarement. Et donc
dans les deux cas, je refais.
Oui, ouais. Ouais, parfait. Ben, merci Bernard.
Avec plaisir.
Et bonne journée.
Merci aussi.
Merci de nous avoir suivis pour cet épisode 8 avec Bernard Rentier, ex-recteur de l'ULG et porteur de multiples projets. C'était un épisode super sympa. Le prochain épisode sera le numéro 9, fatalement, avec Hugues Danse de Meusinvest et qui parlera de tous les projets autour de Meusinvest et du Hub Créatif. À bientôt.